Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Je fais des progrès, hein, généralement. Autrefois,
il faut allonger la durée d'émission, Nicolas.
C'est ça. Non, mais j'ai dit qu'on pourrait faire la semaine en 4 jours. Je fais 1h15 d'émission par jour au lieu d'une heure et on fait 4 jours. Christian Poyot, bonjour.
Bonjour, Nicolas.
PDG de Micropole. Et Juan Tizon, bonjour.
Bonjour, Nicolas.
Directeur des études de l'Institut Sapiens, chargé d'enseignement à l'Université de Strasbourg. Et vous avez coécrit Un robot dans ma voiture, prendre le véhicule, le virage du véhicule autonome chez MA Édition. Tiens, il y a Agnès Michel était avec nous cette semaine. Elle prépare un bouquin. Sur la fin de la voiture individuelle, ça va faire causer. Elle avait à peine prononcé le mot que mon compte Twitter explosait et tous les gens qui ne pouvaient pas se passer de leur voiture m'expliquaient pourquoi ils ne pouvaient pas s'en passer.
Mais c'est un vrai débat qui a été soulevé. Juste un petit, oui. petit chiffre, le coût d'utilisation horaire d'une voiture individuelle, c'est 28 euros. Quand vous rapportez en fait le taux d'utilisation qui est à peu près 3% par jour par rapport à ce que ça vous coûte par mois, entre l'amortissement, l'investissement, l'assurance, etc., on est entre 25 et 28 euros par heure d'utilisation. Donc, si
c'est
jamais
presque 3 SMIC. Hein.
Ben, si on arrive à développer une solution effectivement de transport collectif ou à la demande, comme avec les transports autonomes, à moins cher que 28 euros, on créera une incitation économique pour les agents rationnels.
C'est pas mal de regarder le coût horaire de l'utilisation d'une voiture.
C'est le véhicule autonome de catégorie 5 qui sera la vraie réponse. Mais c'est pas
catégorie 5, c'est quoi déjà catégorie 5 ?
C'est lui qui se déplace tout seul et qui retourne à son point de départ et qui optimise les choses tard, mais c'est pas tout de suite.
Je suis pas un pro du sujet, mais intuitivement, j'ai l'impression que soit tous les véhicules sont autonomes, soit ça fonctionnera pas.
Non.
Vous voyez qu'on va pouvoir commencer avec quelques-uns ?
Oui, bien sûr.
Alors, il y a un problème, il y a une dimension générationnelle.
C'est Philippe Trénard qu'on entend à l'instant, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes. Bon, on ne fait pas le véhicule autonome aujourd'hui, ce n'était pas prévu. Alors, je tiens à préciser que, depuis que j'ai lu quelques courriers, que j'ai reçus, des mails, alors j'en reçois tous les jours maintenant, des mails fleuves. J'ai reçu un mail de Maxime qui me parle de notre relation justement au monde du travail. On parlera de l'absentéisme. Puis alors, tout le monde me propose ces pistes de réforme pour l'assurance chômage, notamment, comment s'appelle-t-il, Guillaume, qui m'a écrit. Je les lis, vos mails. J'essaierai de les inclure dans l'actualité lorsqu'elles se présentent. Assurance chômage, la durée d'indemnisation baissera bien de 40%, mais si on tombe à 6,5% de chômage, donc un point de moins qu'aujourd'hui, et le 1er juillet, par décret, il faudra avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois pour être indemnisé, 3,6 milliards d'économies espérées, 90 000 emplois supplémentaires. Est-ce que vous soutenez, Christian Poyot, la réforme de l'assurance chômage? Patrick Martin du MEDEF, il y a 48 heures, a pris la défense du projet.
Ben oui, évidemment. Alors, toujours intéressant de rappeler, on l'a dit certainement plusieurs fois à cette antenne, que le problème principal de la France, c'est que collectivement, on ne travaille pas assez. Entre l'âge où on démarre le travail, encore une fois, il y a bien sûr des différences dans certains corps de métier, et puis l'âge de la retraite, et puis la durée de travail globale, etc. Les calculs ont été faits une fois. Si les Français, globalement, travaillaient au même nombre d'heures que les Allemands ou d'autres, nos problèmes de déficit, je crois, seraient... Oui. Régler instantanément.
Si les taux d'emploi étaient similaires, on aurait plus de 100 milliards d'euros.
C'est le genre de choses. Alors, je sais bien, ça fait un peu, on radote, mais c'est toujours bien de le rappeler. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, sur le fait de dire comment travailler plus, il y a effectivement un des sujets qui est le sujet de l'assurance chômage. Ben là, et encore une fois, regardons ce que font les autres. Donc, alors il y a des différences ce que propose le gouvernement ou ce que va proposer le gouvernement et peut-être pas exactement ce qui est fait dans d'autres pays, mais en tout cas ça tend vers ça, encore une fois. Donc le propos de Patrick Martin était simplement de dire regardons ce que font les autres, visiblement ça marche pas trop mal, donc oui, il faut aller dans ce sens-là. Alors, toujours pareil, sur les chômeurs, il y a le cas soit des gens qui sont de totale bonne foi, qui cherchent du boulot, c'est très compliqué, etc. Et eux, il faut continuer à les aider. Mais il y a aussi des effets d'aubaine. J'entends dire, il y a peut-être des effets d'aubaine. Non, il y a des effets d'aubaine. Il ne faut pas se raconter de bêtises, c'est clair et net. Voilà. Donc oui, il faut soutenir la réforme. Il faut aller dans ce sens-là, pas tant pour les économies, si je veux dire, de l'assurance chômage, mais pour dire, on va collectivement produire plus, et donc c'est de la richesse nationale qui va être profitable à tout le monde.
Les opposants à la réforme vous disent, aujourd'hui il y a des excédents, ça va pénaliser les personnes les plus difficiles à insérer, Et puis, a priori, on ne fait pas une réforme, on ne durcit pas un système quand le marché se dégrade, ce qui est un peu le cas du marché de l'emploi.
Ouais, enfin, le marché français n'est pas non plus dans une situation catastrophique aujourd'hui, on est venu d'être en pire. Voilà.
Vos avis, Philippe Trénard et Juan Tizon, oui, sur... De toute façon, on y va à la réforme, que les partenaires sociaux soient d'accord ou pas, on les consulte pour la forme, on le sait bien.
Moi, je crois qu'il faut aller dans ce sens. Je rejoins ce que dit Christian.
Vous dites qu'il faut réformer.
Oui, il faut réformer. Bon. Je crois l'augmentation de la durée de travail, le passage de 6 à 8 mois, est une bonne réforme. C'est quelque chose de différent de celle de la baisse de la durée d'indemnisation.
Il y a aussi là, une idée... retard de l'entrée dans l'indemnisation.
Il y a aussi une idée de mettre fin à une pratique. Enfin, je pense que chacun d'entre nous, quand il regarde autour de lui, voit cette pratique, c'est-à-dire de gens qui font des allers-retours entre le marché du travail et qui bâtissent leur carrière là-dessus. Bon, c'est plus de l'assurance, là, c'est quand même un problème d'aléa morale, comme diraient les assureurs, sur l'assurance. Donc, je crois qu'il est légitime. Il faut avoir travaillé avant de bénéficier, et il faut renforcer les conditions. Et on peut pas dire aujourd'hui que le marché du travail se dégrade. En mars, le taux de chômage a continué à baisser. Nous sommes à 7,3%, ce qui, pour la France...
On est à 7,3.
À 7,3, oui. On est passé de 7,4 à 7,3. On est sur les niveaux les plus bas historiquement que nous ayons connus. Mais on voit bien qu'il y a une réticence, et cette réticence, elle est structurelle, c'est parce que notre système est pas bien adapté. Je trouve que la deuxième idée, c'est-à-dire si le chômage tombe, on baisse encore la durée d'indemnisation. Oui, parce que la durée d'indemnisation est l'un des facteurs déterminant de la durée du chômage. On s'aperçoit, et ça, toutes les études internationales de l'OCDE, du FMI, le répètent depuis 20 ans, n'est-ce pas ? Il faut que nous baissions pour nous mettre vraiment dans la moyenne des pays avancés. Nous n'y sommes pas encore, nous approchons. Il y a eu beaucoup de réformes dans ce sens, et qui ont été faites d'ailleurs par les gouvernements d'Emmanuel Macron. Il faut le saluer, c'est un domaine où il a eu un certain succès, et je crois qu'il faut poursuivre dans cette direction, parce que la pratique, en réalité, et on le voit bien, le comportement qui est derrière, c'est-à-dire la fin de l'indemnisation sonne aussi le moment où il faut absolument avoir trouvé un travail. On s'aperçoit d'ailleurs que quand on fait des comparaisons internationales, avec des durées d'indemnisation plus faibles ou plus fortes, on aboutit toujours à la même décote quand le chômeur, qui est de l'ordre de 20 à 25% quand le chômeur reprend un travail.
Stéphane Carcillo, spécialiste du sujet, nous a bien décrit les effets de comportement et les effets d'horizon, effectivement, qui sont tout à fait normaux et tout à fait cohérents et rationnels. Voilà. Et notamment, il expliquait que lorsqu'on avait passé de 4 à 6 mois le temps pendant lequel il faut avoir travaillé pour être indemnisé, eh bien, on avait vu que les contrats de travail avaient eu tendance à s'adapter assez vite à ces nouvelles donnes, et donc probablement qu'ils s'adapteront à la nouvelle donne des 8 mois. Même position, Erwan, si vous avez un truc à ajouter, parce que si on a tout dit...
Un peu plus nuancé.
Un peu plus nuancé.
Trois petites réflexions, si vous permettez. Premièrement, dans le cas d'une assurance, si mes conditions d'indemnisation baissent, normalement, ma police doit baisser aussi.
C'est un peu ce que je me disais.
Les cotisations devraient normalement légèrement baisser.
C'est pas prévu.
Bah, je sais, parce que c'est le but officiel de ces... Enfin, le but officieux de cette réforme, c'est faire des économies. C'est pas du tout aller vers le plein emploi. Je pense que, objectivement, le gouvernement a abandonné l'objectif de 5% de taux de chômage d'ici 2022. Parce qu'il s'est rendu
2027.
Compte... 2027, pardon.
Mais je pense qu'il
s'est rendu, compte que c'était effectivement trop compliqué à atteindre, et donc du coup on va plutôt aller vers un autre objectif politique qui est celui des 3%. Coûte que coûte, qui quitte à casser quelques dépenses structurelles qui peuvent amputer notre croissance à venir. Donc premièrement, on est là pour faire des économies. Alors les économies, on peut les nuancer. On parle de 40 000 euros par emploi. Je trouve que c'est quand même beaucoup en termes d'économie. Hein, quand on veut mettre 80 000 personnes pour économiser 4 milliards.
Je ne sais pas comment on peut prévoir 90 000 emplois en plus.
Pourquoi pas 95, pourquoi pas 85.
Je suis un peu sûr.
Le deuxième chose qui me manque, moi, dans cette réforme, et j'ai déjà pu le prononcer ici, c'est le côté réellement insertion qui est par la formation. Le taux de chômage français est un taux de chômage qui se singularise par rapport aux autres taux de chômage européens par sa forte dichotomie entre les non-qualifiés et les formés. Très haut qualifié. Le taux de chômage des bac plus 5 est environ à 3% dans notre pays, et le taux de chômage des bac moins 1, moins 2, moins 3 est environ entre 17 et 19%. Donc on voit bien qu'en fait il y a plusieurs taux de chômage, il y a plusieurs types de chômeurs qui existent. Or, en se concentrant exclusivement sur des incitations type d'allocation, en tout cas type d'indemnisation, déjà on touche que la moitié des demandeurs d'emploi, hein, parce qu'il y a la moitié des demandeurs d'emploi qui ne touchent rien, donc qui ne seront pas du tout dans cette incitation-là.
Il y a 47% qui ne sont pas indemnisés.
Exactement.
Qui sont indemnisés.
Sont indemnisés. Et le problème, je pense, c'est qu'on perd de vue l'objectif d'appariement nécessaire, qui est de dire il faut qu'on opère une montée du capital humain, il faut qu'on forme la plupart des demandeurs d'emploi qui n'ont pas eu et ça c'est le grand drame de la France, hein, c'est ce fameux culte du diplôme, à 20 ans votre destin professionnel est figé. Il faudrait qu'on arrive à casser ça en disant...
Oui, mais ça peut... c'est un travail de longue haleine.
Oui, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui avait commencé par la loi Pénicaud, qui était... Il y avait dans le candidat Macron en 2017 avait annoncé, c'est-à-dire trois piliers, c'est-à-dire la liberté de choisir son avenir professionnel par la possibilité de suivre une formation pour casser justement le monopole et la rente du diplôme initial, plus après l'idée de pouvoir démissionner tout au long de sa carrière pour changer de branche et d'emploi, plus l'idée de prendre sa retraite quand on le veut par une réforme à points, il y avait l'idée de dire l'actif pilote lui-même sa propre carrière. Cette ambition-là, il n'est pas encore trop tard pour aller la chercher. Une proposition très simple que l'on a déjà fait ici, je reformule très rapidement, on supprime l'assurance chômage au-delà de 3 mois, on la fusionne avec la formation professionnelle, c'est-à-dire que vous avez 3 mois de recherche individuel, vous pouvez choisir pendant 3 mois le secteur où vous voulez aller. Au bout de 3 mois, si vous n'avez pas trouvé, vous basculez automatiquement dans une formation. Soit pilotée par France Travail localement qui va vous dire, bah tiens, la restauration cherche dans votre coin, bah, on va vous former là-dessus. Soit parce que vous avez un vrai projet de carrière et dans ces cas-là, vous êtes pris en charge. Ça permettrait de faire des économies d'échelle assez importantes. On fusionne en plus 2 fonds qui permettraient de faire pas mal d'économies structure. Ça nous permettrait d'augmenter l'allocation chômage, hein, donc de passer par exemple de 55% à 80%, comme le font d'autres pays nordiques, pour éviter le décrochage en termes de pouvoir d'achat lié à l'inactivité. Et ça permettrait surtout de mettre tout le monde en formation et d'éviter d'avoir des gens qui se retrouvent pendant presque 2 ans sans aucun suivi et sans aucune personne au bout du fil pour pouvoir les mettre dans un programme d'insertion.
Ambitieux. Philippe Trédard, après on passe à ça.
Ambitieux, mais je réagis à mettre tout le monde en formation. Non, je ne crois pas que la formation professionnelle soit la solution au chômage. Ça, c'est un enseignant qui parle. La formation professionnelle n'est une solution que pour certaines personnes. Je crois qu'il faut être plus large. Et je pense que notre ami a raison d'insister sur ce point. Il faut un accompagnement. Il faut plus d'accompagnement des chômeurs. Accompagnement d'abord dans la recherche d'emploi et éventuellement déterminer s'il y a un besoin de formation professionnelle. Pour avoir un besoin de formation professionnelle, il faut que la personne soit apte à recevoir une formation professionnelle, et notamment celle que l'on a en vue, et deuxièmement, que ce soit pour un secteur où il y a des besoins. Mmh. Or, aujourd'hui, justement, on s'aperçoit que quand même les performances de la formation professionnelle laissent à désirer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des domaines très performants, mais je crois que le premier acte, c'est plutôt de ne pas laisser le chômeur seul et de l'accompagner.
Tout le monde le dit, hein, qu'on a un défaut d'accompagnement. J'ai pas mal d'auditeurs qui considèrent que si effectivement on resserre un petit peu les droits, il faut baisser la cotisation qui finance.
Pour le moment, il s'agit d'équilibrer sur le cycle l'assurance chômage. On n'est pas encore de gagner de l'argent et d'accumuler des excédents dans le temps. Donc je pense que la baisse des cotisations arrivera plus tôt. C'est juste permettre à l'assurance chômage
de baisse de cotisation. Après, il y a aussi une critique régulièrement formulée que je trouve juste. On demande à l'assurance chômage de financer en partie Pôle emploi, ce qui n'est pas a priori son objet, demande à l'assurance chômage de financer le régime très particulier des intermittents du spectacle, qui est un choix politique culturel et qui ne devrait pas dépendre de l'assurance chômage.
C'est de la solidarité.
Juste un tout petit point sur les intermittents du spectacle, je pense qu'on sera tout d'accord, mais France Travail, en quoi ça serait choquant si on a créé une matrice justement qui vise à lutter un maximum contre le chômage par l'accompagnement? Avant la création de France Travail, vous savez combien de temps il fallait pour qu'un allocataire du RSA, entre son inscription et son premier rendez-vous, c'est cool, il y avait plus de 3 mois en moyenne. 3 mois quand vous êtes en inactivité au RSA, c'est foutu, c'est terminé. Vous perdez en motivation, vous perdez en compétences, etc. Moi, je ne trouve pas ça choquant, vu les immenses besoins qu'on a en financement de France Travail, parce qu'on va quand même, France Travail va quand même, par rapport à Pôle emploi, gérer 1,5 million de personnes en plus.
Il va y avoir un phénomène de...
En ingénierie, c'est énorme. Moi, ça ne me choquerait pas que certains excédents de l'assurance chômage, dans la mesure où c'est un outil pour lutter contre le chômage, servent à financer France Travail.
France Travail, je pense, c'est une bonne initiative qui vise à rationaliser l'ensemble des aides qui étaient...
Oui, il y a un côté guichet unique, recherche d'efficacité.
C'est faisable d'ailleurs, parce qu'il y a une notion de data unique pour chaque personne en recherche d'emploi. Après, je voudrais juste revenir sur les 5%. Ok, c'est vrai que peut-être le gouvernement met plus ça en avant parce qu'il y a le déficit qui est peut-être prioritaire, etc. Mais enfin, qu'il le mette ou non, c'est bien l'objectif qu'il faut garder. Encore une fois, on reste sur le fait que...
Les 5% de chômage.
Bah oui,
il faut garder l'objectif.
C'est un point majeur qui crée des problèmes de la France.
Je regarderai tout à l'heure vos réactions à la pause. La photographie de ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Il n'y a rien de très nouveau sous le soleil. Moins de la moitié des ménages payent l'IR, 18,2 millions de foyers sur 41 millions de foyers. En moyenne, ceux qui payent l'impôt sur le revenu payent 4 663 euros. De moins en moins de foyers le payent. On est à 45% des foyers aujourd'hui, c'était 52% en 2013. Entre-temps, François Hollande a supprimé la première tranche de l'impôt sur le revenu en 2014 et Emmanuel Macron a baissé la nouvelle première tranche en 2020 de 14 à 11%. Et surtout, une toute petite minorité paye à elle seule trois quarts de la facture, c'est-à-dire les contribuables qui dépassent 2 740 euros par mois de revenus fiscaux de référence, ce qui correspond à un célibataire sans enfant. Ils acquittent, ces contribuables-là, 76% de la facture totale d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire 62 milliards de recettes sur un total de 82 milliards d'euros de recettes. Et pour eux, le montant moyen n'est pas de 4 663 euros, mais de 15 310 euros. Et si on prend le 1% au sommet, tout en haut, les plus riches, eux, leur facture moyenne d'impôt annuel est de 68 000 euros. Moi, je dis, quand je vois ça, que l'impôt sur le revenu, il coche les cases du mauvais impôt. Il rapporte moins de 4% du PIB, c'est quasiment 10% dans les autres pays. Il est payé par de moins en moins de gens, et ceux qui le payent, payent beaucoup et le vivent de plus en plus mal. Est-ce que vous partagez mon avis sur le fait que c'est pas un bon impôt, et qu'on a un autre impôt sur le revenu qui fonctionne très bien, qui s'appelle la CSG?
Oui, oui.
Philippe Trénard.
Oui, non. Je crois qu'il faut, quand on parle d'impôt sur le revenu, c'est vrai qu'il faut avoir dans sa tête la fusion intellectuelle. Je ne sais pas en pratique, mais au moins la fusion intellectuelle entre la CSG et l'IR.
On s'était posé la question, voilà, à un moment.
Absolument, puisque j'ai été parmi les concepteurs de la CSG dans les années, à la fin des années 80, quand j'étais au milieu fonctionnaire au ministère.
Vous êtes un sado fiscaliste.
Voilà,
alors.
Voilà. Et on avait l'idée, il y avait eu un débat, et d'ailleurs à l'époque, on avait décidé de séparer pour bien orienter la CSG vers les questions sociales, que la CSG n'aille pas financer la défense,
c'est
etc.
C'est la contribution sociale généralisée.
Contribution sociale générale.
Ça rentre dans les dépenses sociales.
Je crois que ce que signalent les chiffres, qui n'ont rien d'exceptionnel, hein, on les revoit chaque année, c'est que notre impôt est redistributif. Nous savons que certains économistes comme Piketty, etc., nous disent chaque année qu'il faut le rendre plus redistributif, etc. Vous avez donné les chiffres pour ceux qui gagnent plus de 2 740 euros, et les chiffres pour ceux qui gagnent, qui sont parmi les 1% les plus riches, nous avons un impôt qui est redistributif, n'est-ce pas ?
On entend souvent l'inverse, et je suis d'accord avec
c'est
vous,
ça.
Il faut rappeler
qu'il
est progressif.
C'est qu'il y a même des députés qui disent « Ah, mais il faudrait, il n'y a pas assez d'impôts sur les riches », ce qui n'est pas du tout vrai en France. D'ailleurs, la redistribution est très forte, n'est-ce pas ? N'oublions pas qu'entre le premier décile et le dernier décile de la distribution des revenus, vous passez de revenus qui sont avant impôt, avant prestation sociale, de 1 à 10, après impôt, après prestation sociale et redistribution, vous n'êtes plus de 1 à 10, c'est-à-dire un revenu qui serait 10 fois plus élevé pour le dernier décile, le décile le plus élevé, mais un revenu qui est simplement 2,5 fois plus élevé, c'est 2,3 fois plus élevé.
On arrive à ce résultat, je précise, Philippe Trénard, en incluant la redistribution monétaire plus l'apport des services publics, logement, santé, école.
C'est logement, santé, voilà. École, mais pas les routes. Enfin, on ne tient pas compte des routes, etc.
Mais ça veut dire qu'effectivement, on a un système de redistribution qui est très très efficace.
Et qui est l'un des plus redistributifs au monde.
Voilà, c'est une petite leçon à ceux qui considèrent que la France est ultra-libérale et qui est un pays d'inégalité.
Oui, non. Et qui aurait un recul. Bon. On entend même des idées que selon lesquelles on serait en train de déconstruire l'État-providence, ce qui est absolument faux.
Philippe, franchement, je me demande s'il faut être uniquement sur le terrain intellectuel quand on imagine un rapport entre l'impôt sur le revenu et la CSG. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet ? Bon, qu'est-ce que vous inspire la photo de la Direction Générale des Finances Publiques ? Allez, Erwan.
Non, mais comme le dit Philippe, rien de nouveau sous le soleil.
Non, rien de nouveau sous le soleil.
Mais c'est important, c'est intéressant, c'est que c'est l'impôt que les Français, bon, moins maintenant avec le prélèvement à la source, mais à une époque, c'était l'impôt que les Français sentaient le plus dans leur chair, parce que c'est celui pour lequel il fallait faire un chèque à la fin de l'année.
Quand on parle des impôts, tout le monde pense impôt sur le revenu.
Oui, mais quand on regarde les prélèvements obligatoires, l'impôt sur le revenu, il est à la 5e ou 6e place, je crois, des recettes.
Donc, à peu près, oui. 4e peut-être.
Il y a énormément.
CSG, TVA devant.
Après, vous avez toutes les cotisations, je parle du prélèvement obligatoire.
Ah oui, bien sûr. Et puis,
les cotisations sur les retraites, par exemple, chacun paye beaucoup plus en cotisation retraite qu'en impôt sur le revenu. Mais j'ouvre pas le débat, Nicolas, promis. Mais on est d'accord, c'est un impôt effectivement qui a une assiette très petite et un taux de prêt très élevé. Il serait peut-être temps de pas le supprimer, mais de le fusionner dans autre chose. Mais ça va avec la revue globale de la fiscalité française qu'on doit avoir depuis des années.
Oui,
Christian Pouillot, oui.
Et si on parlait des impôts d'une manière générale, quoi,
si on parle d'une manière générale,
oui, c'est un peu ça le sujet aussi, quoi. On sait très bien le poids de l'État par rapport au PIB, qui est colossal par rapport aux autres, enfin colossal, en tout cas largement supérieur à la moyenne européenne, etc. C'est ça qu'il faut traiter, quoi. Je veux dire, c'est vraiment ça le point principal, parce qu'effectivement, les derniers déciles, alors, je sais pas qu'il faut effectivement pleurer sur ces personnes-là, mais je veux dire, il y a un poids de l'impôt qui est colossal entre l'IRPP, les taxes foncières, enfin, il y a tout un tas de choses qui pèsent vraiment et qui, au final, sont négatives pour la dynamique de la France, la productivité, attirer des talents, enfin, tout ce que vous voudrez. Voilà.
C'est le sujet, parce que la définition du bon impôt, elle a été établie par des comités d'économistes. Et en fait, quand on a un impôt qui ne coche pas les cases du bon impôt, il y a peut-être des réflexions à avoir.
Voilà. Enfin, je pense que chaque
partie. Comme disait Erwan, il est très mal vécu par les gens, c'est l'impôt un peu psychodramatique.
Ouais, alors c'est vrai que depuis qu'il y a le pass, c'est un peu inodore, incolore et sans saveur.
On a vu son recul. Ça a été d'une habilité
qui a baissé, ça c'est clair. Après, on le fait peut-être pas tous régulièrement, mais moi j'avoue, je le fais de temps en temps. Quand on somme tous les impôts qu'on fait et qu'on paye, ça fait mal.
Ah, oui. Alors, ce qu'il faut. On marque une pause, Philippe Trélat, vous réagirez, d'accord, si vous voulez, dans un instant.